Les chuchoteurs, du livre au cœur. Un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Combat d'une vie, combat d'espoir, par Joanne Turcotte, avec la voix de Cynthia Lissa Dubé. Cette biographie raconte la bataille pour la survie d'un grand prématuré de 25 semaines de gestation, pesant 1 livre et 3 onces, malgré toutes les embûches que la vie met sur son chemin. La maman décrit les étapes marquantes du périple de ce petit garçon courageux et le combat d'espoir de parents impliqués dans ce tourbillon d'événements de 1990 à 2018. Ce livre se veut un partage d'expériences vécues et d'informations pouvant venir en aide à des parents vivant une situation similaire pour qu'ils se sentent moins isolés dans cette dure épreuve de la vie. En voici un extrait. L'horloge indique 13h35 lorsque, entouré d'un médecin résident, d'infirmières et de Daniel, je tente de contrôler les 2 prochaines contractions qui mettront fin à une grossesse déchirante et inhumaine. Prise subitement d'un instinct insoupçonné, je m'écarte les jambes, je cambre le dos et commence à pousser de toutes mes forces. J'ai conscience, à mon grand désespoir, que l'engagement de la tête de mon bébé vient de s'amorcer. Prise de panique, je crie au médecin se tenant près de mon lit « Vite, vite, dépêchez-vous, il sort !» Devant son scepticisme, le médecin résident décide de retirer mes petites culottes afin de constater mes dires. À sa grande surprise, il entrevoit une forme violacée entre mes cuisses. Il prie mon mari d'avertir rapidement le gynécologue d'un accouchement éventuel. Quelques secondes se sont écoulées lorsque Daniel revient à toute vitesse, suivi du gynécologue et de 2 infirmières supplémentaires. Soudainement, sentant venir une autre contraction, je recommence à respirer à grands coups. Le médecin résident se voit dans l'obligation de me presser fermement le ventre, puisque mon réflexe est de retenir mon bébé pour qu'il conserve la sécurité de mon utérus. Du moins, c'est ce que je crois. Jusqu'à la dernière seconde, je m'efforce d'éviter l'inévitable, soit de mettre au monde un enfant dont les chances de survie s'avèrent très mince. Malgré mes efforts démesurés, mon bassin s'ouvre et mon corps tout entier s'imprègne de la douloureuse sensation de cet être, beaucoup trop petit pour voir le jour, glissant le long de mon vagin et s'étendant sur les draps immaculés de mon lit d'hôpital. Blessée dans mon corps de femme, épuisée et désabusée, j'observe le visage de mon mari d'une blancheur fantomatique. Il regarde notre enfant gisant sur le lit jusqu'au moment où un groupe d'infirmières arrive à toute vitesse avec un grand drap blanc et y dépose notre bébé pour finalement sortir en catastrophe avec ce minuscule paquet. Mon ventre m'ayant évité de voir mon enfant, je demande prestement s'il est vivant. Daniel me prend délicatement la main et, d'une voix hésitante, m'assure qu'il est bien en vie. Je vois l'équipe médicale s'affairant autour de moi afin de tenter énergiquement de me réinstaller un soluté. Étant donné mon extrême enflure due à une pression très élevée, il est très ardu de me repérer une veine sur les mains ou les bras. Après plusieurs essais, ils réussissent enfin à m'installer ce soluté primordial à ma propre survie. Je suis toujours étendue sur mon lit maculé de sang, vaincue par une nature plus puissante que moi, sans force et sans espoir, remplie d'amertume et d'une douleur morale indéfinissable. Je regarde les gens encore autour de moi et je leur crie ma culpabilité profonde. Je leur expulse ces mots. Je n'ai pas réussi à le garder dans mon ventre. Je n'ai pas réussi. Accompagnée de gémissements et de larmes, comme si j'accouchais une seconde fois, comme si je devais me libérer d'une douleur beaucoup trop intense. Je laisse couler mes larmes de douleur sans censure. Je pleure de toutes mes forces, de tout mon être. Je me dandine la tête de tous les côtés en répétant sans cesse ces mots et je me referme lentement les jambes près du corps, comme dans un geste de rappel à la maternité. Un infirmier me dépose délicatement sur une civière pour me transférer dans une chambre du département d'obstétrique. Mon corps entier est soudainement pris par d'intenses tremblements, m'obligeant à demander une couverture chaude. Pendant le trajet, je cherche éperdument mon conjoint des yeux afin de m'assurer de sa présence. Je blottis ma main dans la sienne en essayant de trouver un peu de réconfort. Une fois arrivée à la chambre, vers les 14 heures, une infirmière est désignée pour vérifier régulièrement ma pression, ma température corporelle et l'ampleur des saignements dans le but d'intervenir rapidement s'il y avait hémorragie, puisque dans ce cas, ma propre vie serait en grand danger. La porte de la chambre s'entr'ouvre pour céder la place à l'infirmière en chef du département de pédiatrie. Elle nous informe de la précarité de la vie de notre nouveau-né. Elle nous indique qu'étant donné le risque élevé de décès de notre bébé, nous devons lui donner un nom afin de le baptiser par ondoiement le plus rapidement possible. Nous n'avions pas encore décidé de nom définitif pour un garçon, mais celui de Jonathan s'était fait remarquer dans le générique d'un film récemment consommé. C'est décidé. Il s'appellera mon petit Jonathan, comme dans l'œuvre célèbre de Richard Bach, Jonathan Livingston le goéland. Emmaillotée dans une couverture de laine et tremblant de plus belle, je me recroqueville en position fœtale, le visage dirigé vers la fenêtre de ma triste chambre. Les yeux dans le vague, mon regard découvre un ciel d'un bleu éclatant, sans nuages pour l'assombrir. Je m'attarde quelques instants sur l'activité régnant à l'extérieur et je m'indigne de constater que la terre continue malgré tout de tourner. J'ai une envie terrible de crier aux gens que je viens à l'instant même de mettre au monde un enfant dont la vie peut cesser à tout moment. J'ai envie de leur hurler qu'aujourd'hui, ils n'ont pas le droit de sourire, de s'amuser ou de blaguer. Je trouve indécent que les gens poursuivent leurs activités quotidiennes comme si rien ne s'était passé. Rempli de rage à l'intérieur de moi, je demande que les rideaux soient tirés car il m'est insupportable d'observer davantage le bonheur des autres. C'est pourquoi un sentiment d'amertume me serrant la poitrine m'oblige à sangloter silencieusement afin de ne pas sombrer dans une déprime insurmontable. Aux environs de 14h30, je demande à Daniel d'avertir nos parents les plus proches de mon récent accouchement. Mes parents manifestent le désir de me voir à l'hôpital. Je refuse catégoriquement, car je me sens beaucoup trop bouleversée par les événements pour rencontrer qui que ce soit. Devant la grande déception de ma mère, je me ravise en me disant que je ne peux tout de même pas interdire aux gens de me soutenir à leur façon, et surtout pas mon père et ma mère. Quelques minutes s'écoulent avant que l'infirmière en chef revienne nous renseigner que notre enfant est toujours vivant et qu'il est oxygéné à l'aide d'un respirateur. Elle nous mentionne que le poids de notre bébé est de 550 grammes, 1 livre et 3 onces, qu'il mesure 30,5 cm, 12 pouces, et que les poupons de petite taille ont une probabilité de survie limitée à 20%. Par contre, plus ses heures de vie augmentent, plus ses chances s'améliorent. Elle me recommande d'aller le voir dès que je m'en sentirai la force. En outre, elle nous informe de l'importance pour un bébé prématuré d'avoir le plus tôt possible un contact avec sa mère, durant ses premières heures d'existence. Me sentant beaucoup trop faible pour aller le voir, je mandate son papa de le visiter une première fois. Je me dis que s'il devait mourir dans les prochaines minutes, au moins son père aurait eu la chance de le regarder, le caresser, et surtout lui faire sentir à quel point nous l'aimons et nous le désirons du plus profond de notre cœur. Il est 15 heures lorsque Daniel revient des soins intensifs de la pouponnière. Visiblement très ému, il me décrit la petitesse du corps de Jonathan. À ce moment, tout ce qui m'importe est de savoir s'il l'a caressé. Il me déclare qu'il a été incapable de le toucher, ne serait-ce que du bout du doigt, de peur de lui faire mal, tellement il est minuscule. Je décide, malgré ma faiblesse, d'aller le voir pour lui offrir un premier contact physique avec sa maman avant que sa vie prenne fin. C'est au moment où Daniel part à la recherche d'un fauteuil roulant que mes parents pénètrent dans la chambre. La déception de constater mon extrême pâleur et mon abattement se lit sur leur visage. Ils s'inquiètent pour leur enfant, et moi, je tremble pour le mien. Je leur fais part de mon grand désir de contempler enfin mon bébé, et je leur offre de venir avec nous. Mes parents acceptent, mais non sans hésitation, par crainte de l'inconnu. L'infirmière de garde revient afin de vérifier mon état physique avant de m'installer confortablement dans le fauteuil roulant. Une fois bien assise, elle me couvre d'une étoffe de laine, car je ressens encore quelques frissons, vestiges de mon récent accouchement. D'un pas machinal, nous nous dirigeons silencieusement tous les quatre vers la pouponnière. Aussitôt arrivés, nous nous lavons soigneusement les mains et enfilons une jaquette destinée à limiter la propagation de microbes pouvant être fatale à ces petits êtres fragiles. C'est à ce moment que le pédiatre, présent lors de l'arrivée de Jonathan à la pouponnière, m'informe qu'il est né dans ses membranes. À ma grande surprise, j'apprends que lors de l'accouchement, le placenta était complètement décollé, ce qui a entraîné une expulsion des membranes, souvent appelées poches des os, renfermant mon enfant, baignant toujours dans le liquide amniotique. Toujours selon le pédiatre, ce type d'accouchement est peu fréquent, très spectaculaire et dangereux pour la vie de la maman. Très émus, nous quittons le spécialiste pour nous diriger du côté des soins intensifs. Je balaie des yeux l'ensemble des bébés en m'efforçant de reconnaître le nôtre. À ma grande déception, Daniel s'immobilise devant une table chauffante où notre nouveau-né est étendu sur le dos, branché à une multitude d'appareils tous aussi inquiétants les uns que les autres. Je suis extrêmement frustrée de constater qu'il m'est totalement impossible d'étreindre mon bébé. Ce geste m'aurait permis de renouer les liens qui nous unissaient au moment où il se trouvait dans mon ventre. Emportée par un élan maternel, je me lève péniblement et me dirige vers cet être si délicat. En regardant mon pas chancelant, une infirmière a l'amabilité de m'installer un banc près de mon bébé. Je parviens à m'asseoir, avec difficulté. J'observe Jonathan et constate que ses poignets, ses frêles poignets, sont entourés de bandelettes de coton attachées à son lit chauffant afin d'éviter qu'il arrache les tubes le reliant au respirateur. Quel choc de le voir immobilisé comme ça! Je vois qu'une canule est introduite dans une de ses narines et reliée à 3 tubes transparents. Ce sont ces tubes qui lui permettent d'obtenir une assistance respiratoire. De même, Trois fils conducteurs sont collés sur sa peau délicate et rattachés à un moniteur d'apnée. Cet appareil est utilisé principalement dans le but de vérifier ses pulsations cardiaques et son rythme respiratoire. Sa petite main droite est entourée d'un bandage élastique rattaché à un fil conducteur qui est lui-même joint à un appareil de saturation. Ce genre de dispositif est employé avant tout à la vérification du taux d'oxygène contenu dans le sang. Une trop grande concentration d'oxygène peut entraîner une cécité complète due à un décollement rétinien, phénomène autrefois très répandu en raison de l'inexistence de ce type d'appareil. Sans aucune hésitation de ma part, je saisis avec délicatesse sa main minuscule entre mon pouce et mon index, comme pour manipuler un objet des plus précieux. Dans un mouvement circulaire, je masse lentement sa frêle main en répétant à maintes reprises
« Mon bébé, tu es beaucoup trop petit. Tu es trop petit. »
Pour moi, cette phrase renferme un éventail de sentiments douloureux. Ces quelques mots signifient « Mon bébé, tu es beaucoup trop petit pour vivre. Sache que j'ai honte. J'ai honte au plus profond de moi d'avoir été l'auteur principal de ta naissance d'une prématurité extrême et j'ai atrocement mal. J'ai la mort dans l'âme devant mon impuissance et je souffre de ne pouvoir entendre tes cris de détresse dus à ce tube inséré dans ta trachée. Mais sache que tes gémissements, je les sens vibrer au creux de mes entrailles et je comprends ta souffrance. Sache également que j'ai cruellement mal de te savoir souffrir autant. J'aurais tout donner pour entendre ton cri, synonyme de vie et si doux à l'oreille d'une nouvelle maman. Actuellement, je n'entends que ton cri, synonyme de douleur et si déchirant pour moi qui ai tant espéré te donner une vie saine. Jonathan, pardonne-moi. Ma présence et mon amour sont tout ce que je peux t'offrir et je le regrette amèrement. J'aurais désiré te donner plus, beaucoup plus. Tu ne mérites pas un tel sort. Pourquoi, mon Dieu, mais pourquoi, de grâce, explique-moi, je t'en prie. Je ne comprends pas. Je suis complètement perdue. Je pleure silencieusement tout en observant d'une manière attentive ce petit bout d'homme, ressemblant plus à un vieillard qu'à un enfant, et dont la peau rougeâtre s'apparente à une mince feuille de papier de soie. Avec le bout du doigt, je caresse amoureusement ses joues, son menton, ses bras, son ventre, ses jambes si minuscules. Je caresse son corps en entier sans me lasser. Je dépose délicatement la paume de ma main droite sur sa tête, comme pour tenter de deviner ses moindres pensées, ses moindres désirs. J'effleure longuement sa petite tête rouquine en versant des larmes d'impuissance. Au même moment, j'entends ma mère pleurer derrière moi, étant déchirée d'observer ainsi sa fille et son petit-fils. C'est trop douloureux. Ma mère quitte la pouponnière, suivie quelques secondes plus tard de mon père. Moi, je reste là, complètement retirée du monde extérieur. Je ne vois que mon enfant, je n'entends que lui. Même si aucun son ne peut sortir de ma bouche.
Les Chuchoteurs, du livre au cœur, est un balado de l'Association des auteurs des Laurentides. Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC des Pays d'en haut, dans dans le cadre de l'entente de développement culturel.